Paul Fructus, eh bien vous êtes l'invité des Amis du Théâtre Populaire d'Avignon.
Et oui.
Où mardi prochain, à la salle de Benoît XII, vous allez nous proposer une représentation des Travailleurs de la mer. Les Travailleurs de la mer de Victor Hugo, c'est un peu un spectacle fétiche pour vous, non ?
Oui, c'est donc un spectacle qui m'a accompagné depuis plusieurs années. Et ce que je dis toujours, c'est que c'est un spectacle pour lequel j'ai eu envie de revenir sur mes pas. Il y a eu une première version des Travailleurs de la mer que j'ai pas mal tournée. Et puis ensuite, le temps a fait que je suis allé jouer dans d'autres spectacles avec d'autres comédiens. Mais j'ai eu l'envie de revenir aux Travailleurs de la mer avec une nouvelle version. Voilà, avec un univers sonore d'Adrien Meulien, un jeune homme qui a énormément de talent, qui a été un peu l'héritier de mes deux anciens musiciens qui avaient travaillé dans la première version.
Peut-on dire que c'est grâce aux Travailleurs de la mer que vous êtes entré chez Victor Hugo ? Parce que depuis, le père Hugo, vous n'avez pas lâché, il y a eu plusieurs spectacles.
Je ne l'ai pas lâché, puisque donc ensuite, après les Travailleurs de la mer, j'ai eu envie effectivement de présenter Victor Hugo sous d'autres couleurs. Et ça a donné Hugo, l'exil, la rage et le rêve, où je raconte un peu Hugo sous toutes les coutures. Je dis que c'est toujours le Hugo de toutes les couleurs et de toutes les douleurs, qui raconte l'homme politique, l'exilé, le coureur de jupons, le bouffeur de curé, etc.
Il y a d'ailleurs une dimension autobiographique dans les Travailleurs de la mer, c'est-à-dire que le personnage central, c'est un peu Victor Hugo à l'époque où il a écrit le texte.
Le personnage central des Travailleurs de la mer, c'est donc Gilliatt. C'est un personnage qui est très attachant, puisque effectivement, Hugo a écrit les Travailleurs de la mer pendant qu'il était en exil à Guernesey. Et d'ailleurs, le roman a été dédié au noble petit peuple de la mer. Et le personnage de Gilliatt, ce marin qui est mal vu par toute la communauté humaine de l'île de Guernesey, c'est le petit frère de Jean Valjean aussi. Et un petit peu le cousin de Quasimodo. C'est Hugo qui adore ces personnages. C'est Brassens qui disait « La foule nous couvait d'un œil protubérant ». Et je crois que Gilliatt est un petit peu justement encore un cousin ou un frère de ces deux autres personnages, de ces deux autres héros de Hugo.
Alors vous avez aussi entamé un compagnonnage avec Jean Giono, puisque j'ai vu le spectacle autour de Giono cet été. Et alors, dans le Giono, en fait, vous êtes seul avec un banc. Et je me souviens que dans Les Travailleurs de la mer, que j'ai vu il y a quelques années, il y avait ce fameux filet. C'est-à-dire que vous avez l'art de travailler avec des accessoires. Alors le filet, il est arrivé à quel moment dans Les Travailleurs de la mer ?
Le filet est arrivé dans la deuxième version, la version que je voulais épurer. Celle où j'ai laissé tomber le décor autour de moi, qui était très 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 bien fait, mais qui m'emprisonnait un petit peu, et qui emprisonnait, je crois, un petit peu, et même un peu beaucoup, le texte de Hugo, finalement. Au fil des mois, et en refondant le spectacle, je me suis aperçu que j'avais besoin d'une grande économie de moyens sur le plateau. Donc le filet, le tabouret pour Hugo, et pour Giono, ben, c'est un banc. Je vais de plus en plus vers l'épure. Je me rappelle toujours de... C'est Jean-Louis Urdin qui m'a raconté ça. Il attribue ça, je crois, à Charles Dullin, qui était rentré au Vieux Colombier et qui avait vu un banc qui était posé sur la scène. Il a dit « Les compromissions commencent ». Donc, je me permets d'estimer, d'être un petit peu de cette famille-là, avec toute la modestie qu'il faut avoir pour ça.
Alors, le filet, c'est à la fois un filet de pêche, c'est aussi une voile. Parce que je me souviens qu'il y a des séquences de tempêtes extraordinaires. Enfin, il y a aussi votre engagement physique, parce que vous y allez quand même, hein.
Ben, le filet, il est complètement polyforme. Il peut être la mer, il peut être les douves sur lesquelles ce bateau, la Durande, est échoué. Ça peut être un morceau de ciel, ça peut être aussi la pieuvre, aussi la fameuse bagarre de Gilliatt avec la pieuvre au milieu de la mer. Et effectivement, c'est une vieille manie que j'aime bien que le texte soit supporté par un jeu extrêmement physique et dynamique aussi.
Le thème de Gilliatt aussi, des Travailleurs de la mer, c'est un peu le bouc émissaire, hein. C'est quelqu'un qui se retrouve seul contre tous, contre toute une communauté.
Oui.
Et finalement, c'est un thème qui est plus que jamais d'actualité.
Ben oui, Gilliatt, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Il fait partie de ces gens qui n'ont peut-être pas beaucoup de moyens, mais qui ont toujours la force de se lever pour dire ben, « je ne suis pas d'accord ». Voilà, et qui en paye le prix. Et je trouve que ce sont des exemples formidables encore aujourd'hui, et surtout, je dirais, aujourd'hui.
C'est, je crois, le cinéaste Maurice Pialat qui a dit « Victor Hugo est le plus grand poète de la langue française, hélas ».
Alors, je crois qu'il y a un débat là-dessus. Certains disent que c'est Pialat, et d'autres disent que ça serait Gide. Il faut poursuivre l'enquête.
En attendant, moi, c'est vrai que c'est un immense écrivain. Ouais, ouais. Alors, dire du Hugo, qu'est-ce que ça représente ?
Dire du Hugo, c'est...
C'est impressionnant au départ, parce qu'après on peut se laisser porter par cette langue, parce que c'est absolument torrentiel, c'est d'un lyrisme extraordinaire.
J'ai eu cette chance-là cet été d'avoir une très très belle conversation avec un monsieur que j'adore, qui s'appelle Jean-Claude Drouot, et qui a fait l'art d'être grand-père de Hugo, qui est absolument magnifique. J'ai eu l'occasion de passer plusieurs heures à discuter avec lui, Et effectivement, il a soulevé cette chose-là qui est extraordinaire, c'est le fait que Hugo, il ne faut pas se laisser porter par le ronronnement du verbe, et en particulier par le ronronnement de l'alexandrin. Ce qu'il faut aller chercher dans l'alexandrin de Hugo, c'est toujours l'urgence qu'il y a à dire. L'urgence à dénoncer, l'urgence à aimer, l'urgence à s'ébahir, et l'urgence à se mettre en colère aussi.
Qu'est-ce que ça représente pour vous de vous retrouver à la salle Benoît XII ? En tant qu'Avignonnais, vous connaissez depuis toujours, et là, cette fois-ci, vous êtes sur le plateau.
Sans sortir les violons, c'est pas le genre de la maison, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est très émouvant. D'abord, parce que j'en avais parlé il y a quelques années avec une grande amie à moi, qui est partie aussi, qui était Mélie Pio. Donc, on avait parlé de ça. Donc, elle sera un petit peu avec moi dans ma tête, dans la salle. Et puis aussi, c'est un souvenir très émouvant, puisque, ayant été moi aussi, j'en connais un autre, élève au lycée Mistral, j'ai ce souvenir absolument terrible. Je crois qu'on était en classe 4e, on était allé voir une représentation, un mariage de Figaro, et il y avait une panique dans la salle. C'était absolument dantesque, et je me souviens toujours d'un comédien qui avait arrêté de jouer et qui s'était avancé à l'avant-scène pour dire « Excusez-moi, mais là, je ne peux plus ». Et c'est incroyable comme ce personnage est resté dans mes souvenirs. À la salle Benoît XII.
Pour en revenir à Victor Hugo, vous avez traversé l'été 2020 avec lui, puisque je me souviens que vous, avec votre vélo, comme une sorte de colporteur, vous disiez Hugo aux quatre coins de l'intramuros d'Avignon. Oui. Il vous a aidé, Hugo, à ce moment-là ?
Beaucoup, beaucoup. Et ça, je remercie toujours Alain Timard qui avait eu cette idée, puisqu'il avait supporté complètement le projet et il m'avait même ouvert les portes du Palais des Papes, puisque je suis allé dire du Hugo dans la cour d'honneur. C'était quand même assez hallucinant. Avec ma petite remorque, c'est vrai, j'avais un mini-théâtre, j'avais une vingtaine de sièges pliants. Et donc, j'ai inventé ce petit théâtre pendant cette année maudite, cet été maudit du Covid, où le Festival d'Avignon avait été arrêté. Ça reste à discuter, mais enfin, bon, c'est une autre paire de manches. Et j'ai gardé un immense souvenir, effectivement, d'avoir trimballé les paroles de Hugo, où j'ai joué au Rocher des Dons, j'ai joué au Verger Urbain 5, et j'ai joué aussi dans la cour du Théâtre des Halles aussi. C'est vrai que cette période a été très étrange, parce que dans la tristesse que je pouvais avoir, comme tous les comédiens ont pu avoir, c'est vrai que là, Hugo et cette expérience-là ont été pour moi un grand secours.
Vous aviez vraiment la tête, la barbe d'Hugo, là. Vous avez une barbe un peu moins protubérante qu'à l'époque où vous jouiez Hugo.
Oui, il faut que je la discipline un petit peu, là. Alors, c'est une sorte de clin d'œil. En même temps, je ne cherche pas du tout la ressemblance. Je suis toujours mal à l'aise avec les sosies. C'est quelque chose qui m'a toujours fait un drôle d'effet. Ben, il se trouve que j'ai un peu, en ce moment, j'ai les cheveux qui est grisonnant. J'ai quand même de nombreuses années qui est là maintenant, et puis j'ai cette barbe que je cherche à discipliner de temps en temps.
Mardi aux ATP alors.
À mardi aux ATP avec grande joie, bien sûr.